Vous écoutez France Culture.
Les vendredis de la philosophie, archives, par Marc-Hubert Floriot, l'apparition de l'idée de civilisation, avec les interventions de Raymond Aron, Louis Althusser, Jean Cazeneuve, Michel Foucault et Georges Gusdorf. De nos jours, quand un journal pose une question à ses lecteurs, notait Michel Foucault, c'est pour leur demander leur avis sur un sujet où chacun a déjà son opinion. On ne risque pas d'apprendre grand-chose. Au XVIIIe siècle, on préférait interroger le public sur des problèmes auxquels justement on n'avait pas encore de réponse. Toujours est-il qu'en vertu de cette habitude, un périodique allemand, la Berlinische Monatschrift, en décembre 1784, a publié une réponse à la question « Was ist Aufklärung ?» Et cette réponse était de Kant. Il n'y a guère de philosophie qui, directement ou indirectement, n'ait été confrontée à cette même question. Quel est donc cet événement qu'on appelle l'Aufklärung et qui a déterminé, pour une part au moins, ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons aujourd'hui ? Imaginons que la Berlinische Monatschrift existe encore de nos jours et qu'elle pose à ses lecteurs la question « Qu'est-ce que la philosophie moderne ?» Peut-être pourrait-on lui répondre en écho « La philosophie moderne, c'est celle qui tente de répondre à la question lancée voilà deux siècles avec tant d'imprudence. Was ist Aufklärung ?» En quel sens sommes-nous des civilisés ? Que faut-il attendre de l'avenir en cette matière ? Les questions posées dans la série des Vendredis de la philosophie résonnaient encore en 2003 des globalisations réductrices de l'anglais orientaliste Bernard Lewis, dont le concept de choc des civilisations dans son article « The Roots of Muslim Rage » qui sera ensuite développé par son assistant au Conseil de sécurité nationale, Samuel Huntington, dans un article « The Clash of Civilizations » en 1993 et un homonyme livre « mais sans point d'interrogation. Plus récemment, en France, ici et là, bourgeonnent des abstractions inédites comme « civilisation des riches » versus « civilisation des pauvres », par exemple. Mais à la surprise générale, le terme semble devoir obéir désormais à l'emploi programmatique ou médiatique par l'État lui-même d'un concept développé cette fois-ci et repris tel quel, si l'on peut dire, développé naguère par Edgar Morin et Sami Nahir, qui publiaient « Pour une politique de civilisation » aux éditions Arléa en 1996. Deux sociologues dont les travaux, pour donner l'allure, ont pour devise, qui leur vient d'Antonio Machado, « Cheminant, il n'y a pas de chemin, tu le fais en marchant ». Chemin faisant, nous sommes donc mis en face, comme par strabisme, d'une annonce, une citation ignorée en quelque sorte, issue des sciences dites de la complexité, par la communication politique qui en a eu l'idée, et cela bien que Kant est averti qu'un livre ne peut tenir lieu d'entendement. Bien sûr, laissons de côté ici la chronique de la citation en tant que telle, chronique amplifiée comme il convient. Laissons aux partenaires le renvoi mutuel des intentions et messages qui lui sont liés entre le souhaitable et l'improbable, le désirable et l'incertain, ici, derrière une grande détresse, les messages politiques. Et là, devant l'immense vertige historique, un projet de recherche fidèle au paradigme de l'utopie réaliste, aux vertus oubliées de l'imagination et de la critique, une réponse à la complexité croissante et irrémédiable du réel par un « New Deal » de civilisation. Prenons nos marques. Disons que, sans jugement de valeur, une civilisation au sens du XIXe siècle est un ensemble de phénomènes sociaux, de nature transmissible, présentant un caractère religieux, moral, esthétique, technique ou scientifique et commun à toutes les parties d'une vaste société ou à plusieurs sociétés en relation. Civilisation chinoise, méditerranéenne. Qu'au XVIIIe siècle, on peut définir géographiquement une ère de civilisation croisée temporellement avec des couches archéologiques de civilisation plus ou moins enfouies, que la civilisation enfin, opposée à l'état sauvage, au patriarcat ou à la barbarie, est l'ensemble des caractères communs aux civilisations les plus hautes, au premier sens, et où les œuvres des hommes permettent de vivre et de jouir d'un superflu nécessaire. Le blé est création de la civilisation, rappelle par exemple Buffon. Création matérielle par quoi les hommes et leurs travaux sont donc opposés d'une part à la culture de l'esprit et d'autre part à la nature, mais ce nonobstant, sens appréciatif par quoi l'humanité tendrait à devenir plus une et plus semblable dans ses différentes parties au fur et à mesure que prend consistance et s'accroît la civilisation. En commençant dans un instant par les encyclopédistes, nous toucherons à Nietzsche en passant par Kant. Dans une seconde partie, en effet, dans une demi-heure, une rencontre exceptionnelle entre Raymond Aron et Michel Foucault, proposée la première fois sur France Culture, le 8 mai 1967, où l'on verra comment Aron, qui vient de publier ses étapes de la pensée sociologique, et ayant tracé l'ère de civilisation de la pensée sociologique contemporaine, depuis Montesquieu jusqu'à Marx, une étude qui se veut scientifique du social en tant que telle, interroge tout de go Michel Foucault qui renoncerait, dans les mots et les choses, à toute recherche d'une loi scientifique du développement historique ou d'une loi du social, laissant entendre sans vergogne un historicisme kantien, décochant sans barguigner un refus nietzschéen de s'accommoder d'un insipide partage des compétences entre foi et savoir, au prétexte que la science table sur un temps infiniment disponible. Mais comme promis, le débat. Automne 1961, France Culture réunissait quelques-uns des exégètes occidentaux, des corpus philosophiques et encyclopédiques et de l'Aufklärung, Louis Althusser, Jean Cazeneuve, Michel Foucault, quelques semaines après sa soutenance de thèse à la Sorbonne en mai 1961, et dont nous reparlerons, et Georges Gusdorf, enfin, interroge l'apparition de l'idée même de civilisation au XVIIIe siècle et font le bilan, sous la houlette de Pierre Cipriot. Extrait, Georges Gusdorf, d'abord historien, auteur d'une somme chez Payot intitulée « Les sciences humaines et la pensée occidentale ».
Il me semble que l'idée de civilisation ne peut apparaître qu'au moment où l'idée de nature a pris une certaine consistance. Car c'est en fonction de l'idée de nature que la civilisation se définit.
Elle me semble très équivoque, cette notion de nature.
Oui, elle l'a toujours été. Et l'encyclopédie disait au mot « nature » simplement « terme vague ». Eh bien, par exemple, au Moyen-Âge, nature s'oppose à surnature. Puis, au XVIIe siècle, avec l'apparition de la philosophie mécaniste, le mot nature prend un sens beaucoup plus rigoureux comme désignant une réalité matérielle dont l'homme peut faire le relevé grâce à la méthode mathématique. Au XVIIIe siècle, se dégagera par opposition à cette nature qui est une nature matérielle, l'idée d'une nature humanisée, c'est-à-dire d'une action de l'homme sur la nature, qui reprend la nature à son compte et qui crée un monde nouveau qui est un monde humain. À mon avis, la dimension spécifique du XVIIIe siècle, c'est cette dimension historique et culturelle qui est caractérisée par le mot de civilisation opposé à une nature nue et proprement matérielle.
Louis Althusser,
peut-être vaut-il mieux essayer de définir d'abord le contenu positif du concept de civilisation, c'est-à-dire ne pas essayer, dans une première démarche, d'en chercher le sens dans ses reflets, ou au contraire dans les concepts qu'on lui a opposés, mais dans le concept lui-même. Or, je crois quand même qu'on... Enfin, il est nécessaire de constater que la pensée du XVIIIe siècle, à partir de l'apparition de l'encyclopédie, et de plus en plus nettement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est emportée dans un mouvement extrêmement profond qu'on peut résumer de la manière suivante. L'humanité s'est constituée au cours d'une très longue histoire et que, d'une certaine manière, comme le diront des penseurs plus tardifs mais qui résumeront bien la pensée de l'époque des Lumières, la civilisation est la destinée de l'humanité. Alors, que faut-il entendre par civilisation ? Certes, on peut opposer la civilisation des œuvres techniques, industrielles, matérielles, à la civilisation des œuvres de l'esprit, mais je crois que le propre du XVIIIe siècle, de la pensée des Lumières, c'est au contraire de les considérer dans leur continuité.
On avec pense cette à séparation quand même, ou à Condillac. Que bien souvent ils introduisent, au sens qu'ils ont le sentiment que leur siècle piétine pour ce qui est des œuvres de l'esprit. Par exemple, D'Alembert, dans son discours programme, signale que la poésie piétine, et au contraire, les œuvres expérimentales, les techniques expérimentales, l'industrie, tout cela progresse.
Oui, mais cette distinction a elle-même une valeur indicative. C'est que, par exemple, chez D'Alembert, on le trouve également chez Diderot, on constate la conviction très profonde que ce qui meut l'histoire, c'est-à-dire ce qui est au principe du développement de l'humanité, par conséquent, ce par quoi l'humanité va atteindre sa destination, c'est beaucoup moins les belles lettres que les transformations effectives de la technique, des sciences et des arts, et entendons art au sens du XVIIIe siècle, non pas beaux-arts, mais techniques, c'est-à-dire découvertes scientifiques passant dans des applications techniques. Par exemple, la machine à fabriquer des bas, auquel un article tout entier de l'encyclopédie est consacré, cette machine à fabriquer des bas est considérée comme un art. Eh bien, je crois que les réserves qu'on peut trouver chez un certain nombre d'auteurs, Rousseau mis à part, bien entendu, c'est un autre cas, sur l'inégalité de développement ou la disparité entre les belles-lettres et la civilisation ne doit pas nous induire en erreur.
Georges Gusdorf.
Le XVIIIe siècle est le siècle où commence la révolution industrielle. Il y a désormais une efficacité beaucoup plus grande de l'humanité sur la terre des hommes. Tout ce mouvement qui commence à partir de la Renaissance avec le mythe de Prométhée, qui passe par le système de Bacon et avec l'idée cartésienne qui veut que l'homme devienne maître et possesseur de la nature, tout cela aboutit effectivement au XVIIIe siècle, au démarrage de la révolution industrielle. L'homme a le sentiment de sa puissance nouvelle, de transformateur des choses, et c'est véritablement un nouveau monde qui apparaît.
Mais ne croyez-vous pas aussi que cet homme qui se trouve ainsi à la tête de tout un acquis scientifique est un homme quand même dévalorisé, diminué, parce que c'est quand même inquiétant.
Il a mauvaise conscience.
De pouvoir se promener ainsi dans le point de vue de Sirius, de savoir exactement ce qui se passe dans les planètes et de se rendre compte que l'homme, au fond, fait partie du règne naturel, comme Buffon ou Lamarck peuvent le dire à tous leurs lecteurs. L'astronomie a transformé complètement la vision du monde et l'homme est un être perdu dans un univers qui évidemment devient un univers rationnel mais qui fait peu de place à l'homme.
Mais justement, l'homme est désorienté et désaccordé, il est perdu dans la mesure même où il est devenu plus puissant. Et je crois que Michel Foucault, qui vient de faire un livre si intéressant sur l'apparition de l'idée de folie au XVIIIe siècle, pourrait nous renseigner là-dessus.
Bien, il me semble que l'idée de civilisation que vous avez rattachée avec juste raison à l'idée de nature se rattache également à celle de contre-nature. Et la vieille idée d'antiphysis que l'on trouvait déjà à la fin du Moyen-Âge et au moment de la Renaissance, cette idée d'antiphysis reprend une vigueur tout à fait nouvelle au XVIIIe siècle. Ainsi, je crois que cette notion de contre-nature, au fond, elle s'est développée dans un sens négatif chez les médecins, par exemple, qui, pour la première fois, ont montré comment l'ensemble du système des maladies n'était pas un ensemble naturel, mais un ensemble qui était lié à l'histoire même de la société et de l'homme. Voilà pour ce qui était de la critique. Et puis alors, il y a eu tout le mouvement de l'exaltation de la contre-nature qui aboutit à Sade.
Oui, maintenant, il y a aussi toutes les injustices sociales dont Diderot a pu parler quand il se fait le défenseur des malheureux. Par exemple, les gens qui vivent dans les mines du Harz. Il cite l'exemple de ces femmes qui, à 50 ans, ont épousé 12 hommes différents parce que les hommes meurent dans ces cachots à l'âge de 25-30 ans. Et il montre que c'est un aspect négatif de la civilisation. Je crois qu'il faudrait également tenir compte de cet aspect. Jean Cazeneuve.
Je pense justement qu'il ne faut pas insister uniquement sur le secteur des belles-lettres ou le côté technique de la civilisation. Pour des gens comme Voltaire, pour Diderot aussi, ce qui était le plus important dans la civilisation, c'était surtout, pour Voltaire, la tolérance, pour Diderot, l'évolution de la civilisation dans le sens où nous l'entendons nous-mêmes, c'est-à-dire du régime politique, par exemple. Donc, les belles-lettres, la culture matérielle aussi, passaient peut-être à l'arrière-plan. Ce qui était important pour eux, c'était les relations entre les hommes.
Louis Althusser.
Ce qui assure, aux yeux de Voltaire, l'unité de l'histoire humaine, c'est la continuité dans la discontinuité, parce que pour Voltaire, la discontinuité, c'est l'alternance des siècles d'ignorance et des siècles de lumière. C'est donc le conflit entre les lumières et l'ignorance qui fait pour Voltaire, n'est-ce pas, l'essence de l'histoire humaine. Et il est évident qu'il attend de l'histoire humaine la démonstration du triomphe des lumières, c'est-à-dire le règne de la raison, le règne de la liberté.
C'est avec cet arrière-plan qu'un siècle de lumière est beaucoup plus vulnérable qu'un siècle de barbarie, et que finalement, c'est toujours la barbarie qui a raison, et que la barbarie ensuite est évidemment à son tour converti aux lumières, mais que tout cela demande beaucoup d'années.
Oui, ce n'est pas un progrès continu. C'est peut-être plutôt l'idée de progrès que l'idée de continuité.
Il ne faut pas oublier non plus, dans l'idée de civilisation, la notion de civil. Il y a un ordre civil. Et la civilisation, par conséquent, peut être l'œuvre des hommes par l'intermédiaire de la loi. L'idée de civilisation, par conséquent, a des applications politiques immédiates. Toute la pensée politique, à partir du XVIe siècle déjà, avec les doctrines du droit naturel, toute la pensée politique se développe dans cette perspective d'une possibilité d'organiser la société. Oui. Désormais, à partir du XVIIIe siècle, le bonheur des hommes dépend des structures civiles imposées par la loi. Il y a des lois de l'humanité, comme il y avait auparavant des lois de la nature, et ces lois de l'humanité doivent être interprétées par le législateur.
C'est pourquoi je me demande si le concept de civilisation n'est pas d'abord un concept politique avant d'être autre chose.
Louis Althusser.
Eh bien, écoutez, sur ce point, je voudrais proposer cette définition, c'est que si effectivement, comme l'a très bien dit Gusdorf, le concept de civilisation fait allusion à la civilité, ou bien à ce qu'on appelait au XVIe, au XVIIe siècle, la policie ou la police, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie des hommes en société, en cité. Ce qui distingue le XVIIIe siècle des siècles qui l'ont précédé, c'est qu'il a tenté, au fond, sous le concept de civilisation, une synthèse d'un certain nombre de concepts ou d'éléments ou d'aspirations qui, jusque-là, avaient été soit divergentes, soit complètement étrangers ou étrangères les uns aux autres. Et en particulier, le concept de civilisation, me paraît, au XVIIIe siècle, tenter la synthèse de l'idéal politique, d'une part, d'autre part, du développement de toute l'histoire humaine considérée sous son aspect technique, c'est-à-dire transformation de la nature par l'homme, découverte des arts, découverte des techniques agricoles, des techniques industrielles, etc. Et enfin, sous ces espèces, puisqu'elles en sont en quelque sorte l'incarnation, histoire du développement intellectuel de l'humanité qui doit aboutir et qui doit culminer dans le règne des Lumières dont le XVIIIe siècle se considère lui-même comme le représentant. Je crois que le concept de civilisation prétend au XVIIIe siècle unifier ces différents concepts qui auparavant étaient étrangers les uns aux autres. Et c'est sur cette tentative d'unification que justement les esprits au XVIIIe siècle se diviseront. Et en particulier, Rousseau ne considérera pas que le développement, disons, des Lumières, entendu au sens de art, sciences et arts, ou bien connaissances intellectuelles, n'est-ce pas, est identique au développement de la civilisation au sens politique. Rousseau considérera qu'il y a une contradiction entre le développement de l'individu, ce que les Allemands appelleront la Bildung, c'est-à-dire l'acquisition des facultés intellectuelles, les découvertes scientifiques, artistiques, etc., d'une part, et le développement de l'espèce humaine, d'autre part.
Ne croyez-vous pas que ce qui est surtout important pour Rousseau, et c'est ce que Kant, au fond, a bien vu, c'est que dans cette masse de travaux écrit par des philosophes parlant au nom de la bonne société, donc la société civilisée, Rousseau est le seul, au fond, à parler au nom du peuple et d'un peuple qui ignore tout et qui ne participe pas à la civilisation.
Est-ce que Rousseau parle au nom du peuple ?
Enfin, c'est ce que Kant dit en interprétant l'ensemble du message de Rousseau.
Moi, je ne suis pas du tout sûr que Rousseau soit un représentant des classes populaires.
Non, en tout cas, il a un aspect très anti-philosophique qui peut s'exprimer, par exemple, dans la troisième promenade, où il accuse les philosophes d'avoir une morale pour l'extérieur, pour leur petite chapelle, leur petit groupe, et de pratiquer pour eux-mêmes une morale extrêmement cynique en flattant les pouvoirs, en servant les tyrannies qui sont en présence, etc., et en faisant le jeu de l'ordre établi.
Mais oui, mais c'est toujours les philosophes qui attaquent les philosophes. Qui est-ce qui attaquerait les philosophes si ça n'était pas les philosophes ? Rousseau, anti-philosophe, c'est justement Rousseau, philosophe. Il me semble que, pour en revenir à l'idée de civilisation, c'est un concept essentiellement pédagogique au XVIIIe siècle.
Georges Gusdorf.
Les différents sens du mot de civilisation, les différentes intentions que tout à l'heure évoquait Althusser, se regroupent dans un idéal pédagogique, c'est-à-dire dans la volonté de donner un ordre à la réalité humaine. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut signaler que à cette idée de civilisation qui apparaît au XVIIIe siècle est lié l'avènement des sciences humaines. C'est le XVIIIe siècle qui voit naître les sciences humaines parce qu'elles sont justement l'inventaire de la civilisation. Et alors, au XVIIIe siècle, ces sciences sociales deviennent un objet d'enseignement. Il faut ici signaler le rôle des universités allemandes, l'université de Halle, qui est fondée dès la fin du XVIIe siècle par des réfugiés français, et en particulier, alors, l'université de Göttingen, qui est une université pilote dans l'Europe des Lumières. Et dans cette université de Göttingen, on enseigne les nouvelles sciences sociales. On enseigne l'histoire, qui n'est pas encore enseignée officiellement en France. Il me semble qu'il y a là l'avènement d'une pensée de la culture, d'une philosophie sur la culture, qui est quelque chose de nouveau, car jusque-là, on pratiquait une philosophie de la nature. Maintenant, la culture même, la civilisation, devient objet de science et objet de philosophie.
Justement, alors, il y a deux définitions de la culture. Il y a une définition de la culture qui place la culture dans une espèce de développement qui se produit spontanément. Et à partir de Kant, en revanche, on a l'initiative constante de l'humanité sur sa culture avec une possibilité d'arrachement par la liberté, d'où toutes sortes de ruptures, de dislocations et d'antithèses qui peuvent se produire. J'ai l'impression qu'avec Kant, on a quand même une grande coupure dans la conception générale de l'histoire. Michel Foucault.
Je crois justement que, bien que le terme de civilisation soit apparu, je crois, assez tard, dans le XVIIIe siècle, entre Rousseau et Kant, enfin pendant cette quarantaine d'années, le concept même de civilisation a beaucoup changé. Et au fond, on était parti d'un contenu purement moral. Le civilisé s'opposait d'une façon dichotomique, soit aux barbares, soit aux laboureurs, soit aux sauvages. Et c'était dans cette perspective de partage moral que la civilisation...
Mais pour vous, cette opposition homme des villes, sauvage, homme des villes, laboureur, ce n'est pas la même chose.
Non, je crois que justement la complexité du concept de civilisation dès le départ est donnée si l'on compare par exemple les termes de barbare, le Moyen-Âge considéré comme siècle barbare, le sauvage, les Américains sont des sauvages, et le laboureur, c'est-à-dire les paysans, les gens de la campagne, s'opposent également aux civilisés. Mais enfin, de toute façon, tous ces différents concepts sont des concepts dichotomiques. Enfin, il y a partage entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas.
Alors, ce qui complique tout, c'est qu'au fond, les classes sociales s'ignorent terriblement au XVIIIe siècle, et que l'homme des villes voit le laboureur comme une espèce de berger, et que le laboureur voit au contraire le noble qui le pressure comme un affreux tyran.
Oui, seulement alors, l'intéressant...
Chez Rousseau, on a l'exemple au contraire d'une connaissance très précise du paysan, n'est-ce pas, ou de l'artisan. Il était...
Oui, non, mais ça, Yves de la Bretonne également a fort bien parlé des campagnes. D'ailleurs, ça rejoignait ce que nous disions tout à l'heure sur le fait que Rousseau a fait quand même éclater ces cadres moraux sur lesquels était établie au départ l'idée de civilisation.
Et alors ensuite, l'idée de civilisation est devenue un concept historique, mais d'une façon assez tardive. Et il me semble que la première formulation rigoureusement historique du concept de civilisation, on la trouve chez Kant.
Mais ne croyez-vous pas que inévitablement ce concept de civilisation a un contenu historique, alors dans l'ordre de l'utopie de l'histoire, utopie ou uchronie, ou bien il s'agit d'aller vers un âge d'or de l'humanité en rationalisant de plus en plus la société par un perfectionnement que Condorcet juge inévitable, irréversible, ou bien par uchronie en se rapprochant du foyer, du centre même de ces sociétés humaines. Alors ça, c'est le point de vue de Rousseau, c'est le point de vue à notre époque de Teilhard de Chardin.
C'est évident que l'apologie ou la critique de la civilisation, si vous voulez, enfin le point de vue de Condorcet d'une part et de Rousseau de l'autre, n'est-ce pas,
Louis Althusser
suppose un certain objet, une certaine expérience, une certaine prise de conscience qui reste dans une grande mesure latente, mais qu'on ne peut pas ne pas qualifier d'historique. Il est certain que si le XVIIIe siècle a inventé ce concept et s'il l'a substitué à des concepts antérieurs, comme par exemple le concept de police, c'est que les concepts antérieurs ne rendaient pas compte de son intuition et de son expérience profonde.
Croyez-vous qu'on pourrait trouver chez Rousseau des définitions d'idées de civilisation identiques à celles que les ethnographes peuvent nous en donner quand ils nous parlent des civilisations primitives?
Jean Cazeneuve.
Dans une certaine mesure, oui, parce que tout de même, chez Rousseau, la civilisation s'oppose essentiellement à la sauvagerie, parce que pour lui, il y a justement une antithèse qui définit ce concept, mais en même temps, quand il nous montre que l'état de nature lui-même ne s'oppose pas à la civilisation, il fait donc d'une certaine étape de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation et que M. Lévi-Strauss, par exemple, comparerait à l'âge néolithique, c'est-à-dire à ce que l'on observait chez les sauvages d'Amérique, eh bien, il trouve là quelque chose qui est, pour lui, un autre type de civilisation et que, finalement, il va préférer, peut-être, à la civilisation actuelle. Donc, le concept de civilisation s'oppose d'abord à celui de sauvagerie et, par la réflexion de Rousseau, finalement, il s'élargit de façon à pouvoir couvrir différentes civilisations.
Mais
est-ce que Rousseau ne crée pas ses propres primitifs dans le contrat social? Est-ce qu'il ne nous montre pas, avec son primitif de fabrication personnelle dans le contrat social, comment un primitif sur mesure crée la civilisation grâce à cette fiction juridique du contrat social? Il y a là une sorte de passage du primitif à la civilisation par l'intermédiaire du contrat.
Louis Althusser.
Mais je crois que ce n'est pas tout à fait exact en ce qui concerne Rousseau, parce que si on lit le second discours de Rousseau, on s'aperçoit que le contrat social est un événement qui intervient très tard dans l'histoire humaine, qui intervient justement à partir du moment où toute une suite d'événements ont forcé les hommes à vivre ensemble, les ont forcés à se créer déjà un certain nombre de rapports sociaux qui ne sont pas encore des rapports juridiques, qui sont des rapports préjuridiques. Par conséquent, les hommes de Rousseau qui concluent le contrat social ne sont absolument pas des sauvages, ne sont absolument pas des hommes naturels. Les hommes du premier état de nature, ce sont des hommes qui ont derrière eux une très très longue histoire.
Voyez-vous pas vous poser un problème insoluble, parce qu'il est toujours extrêmement difficile de franchir le fossé entre le sauvage et le civilisé, et le sauvage total, le sauvage qui ne saurait pas faire cuire ses aliments, qui n'aurait pas l'usage du feu, qui ne parlerait pas, est pratiquement impensable. Et alors évidemment, il faudrait nous faire assister à la naissance du langage, à la naissance du feu, toutes sortes de choses que même l'anthropologie l'a pu développer en ce moment, l'ethnographie, etc. Et l'archéologie ne sont incapables de nous démontrer.
Mais ça, c'est autre chose. Rousseau prétend justement nous faire assister à cette genèse. C'est-à-dire, il prétend nous faire assister au passage de ces différents états. Pour Rousseau, il y a un âge de l'humanité où les hommes ignoraient l'usage du feu. Ils vivaient de la cueillette.
C'est pourquoi on peut dire, en un certain sens, que c'est à peu près l'âge néolithique qui correspond à ce qui est pour Rousseau le summum de la civilisation. Et cette image lui a été suggérée probablement parce que les voyageurs ont rapporté d'Amérique, qui correspondait non pas à cet état tout à fait primitif de l'humanité, mais précisément à ce que Rousseau appelait la première étape de la civilisation.
C'est ça, ce qu'il appelait d'ailleurs la jeunesse du monde.
Le sauvage, pour Rousseau, ça n'est pas l'homme de Néandertal, mais c'est l'homme, l'Indien d'Amérique, par exemple, qui correspond justement à cette étape qui, aux yeux de Rousseau, constitue peut-être ce qu'il y a de mieux dans la civilisation.
C'est ça, c'est un état où Rousseau dit que la sociabilité s'est développée, n'est-ce pas, mais qui n'est pas un état de société, c'est-à-dire ce n'est pas un état dans lequel règne le droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas encore de société juridique ni de société politique. Mais les hommes sont reliés entre eux par le voisinage, par les mœurs, et même, dit-il, par ce qu'il appelle les nations, c'est-à-dire par le langage qui unifie toute une série de groupements humains relativement autonomes, n'est-ce pas, sur un fond de nature qui leur permet justement de subsister sans conflit.
Georges Husdorff.
Eh bien, ce qui est intéressant dans toute cette discussion, je crois, c'est qu'on voit très bien comment, pour Rousseau comme pour les autres, désormais l'humanité est dans l'histoire et il faut faire un schéma de l'évolution historique. Ça, c'est le phénomène important dans la vie de l'esprit au XVIIIe siècle. Désormais, la dimension historique est la dimension même de l'humanité. Rousseau a son schéma de l'évolution des hommes sur la Terre. C'est un schéma historique et ça, c'est une des grandes acquisitions de l'idée de civilisation. Alors ça, c'est l'histoire du passé. Mais je dirais que la civilisation, pour le XVIIIe siècle, c'est aussi l'histoire du futur. Et là, nous tombons dans le domaine de l'utopie, mais c'est une utopie qui est une utopie humaine. Il y a une des intentions maîtresses de la culture au XVIIIe siècle, cette idée d'une prise de possession raisonnée de la Terre par les hommes. Il y a une culture du possible, que le consentement mutuel, le concours des savants, le progrès des techniques va permettre de réaliser par un travail en commun. Cette espèce d'histoire du futur, qui est le projet des académies, le projet des conservatoires, le projet des encyclopédies, est une des dimensions maîtresses du XVIIIe siècle, et je crois d'ailleurs que c'est un des aspects les plus féconds de cette idée de civilisation.
Nous verrons d'ailleurs dans l'œuvre de Condorcet, enfin dans l'esquisse d'un tableau historique du progrès de l'esprit humain, s'exprimer le bilan de toute cette activité du XVIIIe siècle, dont le résultat, c'est l'idée que l'homme est toujours en progrès, que ce progrès est irréversible, est irrévocable, et que ce progrès procède par rationalisation. Louis Althusser.
Je reviens sur ce mot d'utopie. Je crois que dans ce que vient de dire Husdorff, il y a une part importante qui justement n'est pas utopique, à savoir que ce programme de recherche, le XVIIIe siècle l'a développé, et que l'encyclopédie est la preuve même, n'est-ce pas, de ce programme de recherche intellectuelle,
certainement,
d'acquisition. Bon, et ce qui est utopique, et alors tout à fait typique du XVIIIe siècle, je crois, c'est une des idées maîtresses des Lumières, c'est l'idée justement que par ce développement intellectuel, par cette prise de possession de la vérité, par cette acquisition progressive de la vérité, tous les problèmes seront résolus. Je crois que c'est là l'utopie spécifique du concept de civilisation au XVIIIe siècle. Et en particulier, c'est cette idée qui anime tous les réformateurs politiques du XVIIIe siècle, à part quelques isolés, tout à fait singuliers dans leur position, comme Rousseau, justement.
Et Voltaire, qui ne s'associe pas à cet optimisme non plus, d'ailleurs.
Oui, mais qui, enfin, ne s'y associe pas, mais pour des raisons un peu différentes.
Est-ce que c'est une utopie, Althusser? Vous nous dites que...
Jean Cazeneuve.
Il s'agit, dans ce mouvement chez des penseurs politiques, d'une utopie à proprement parler. Je vous pensais sans doute à des hommes comme Helvétius, qui projettent une réforme rationnelle de la société par la toute-puissance d'une éducation et d'une pédagogie entièrement au service de la raison. Eh bien, c'est peut-être une utopie, mais ce qui m'apparaît à moi, c'est que la suite naturelle du mouvement de l'encyclopédie, de la pensée d'Helvétius et de Condorcet, c'est l'affirmation des idéologues. Or, cette grande école idéologique française, à mon avis, c'est justement le couronnement et la consommation de ce que vous appeliez tout à l'heure utopie, dans la mesure où les idéologues sont le brain trust de la révolution. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire, et peut-être la seule dans l'histoire de France, où les intellectuels ont été, à un moment, maîtres de créer une législation qui soit une législation au service de la raison. À ce moment-là, l'utopie devient réalité. Et je trouve que si l'on prend l'œuvre législatrice de la Convention, en particulier dans le domaine de l'éducation nationale, on s'aperçoit qu'à un moment, l'utopie a été vérité. Mais je m'excuse, peut-être je sors ici dans le cadre historique de l'émission.
Je crois que nous sommes en train de toucher d'ailleurs à une question essentielle pour la notion de civilisation que nous n'avons pas mis encore au point, à savoir que pour ces civilisés du XVIIIe siècle, il y a fondamentalement l'idée qu'il est plus facile d'abord de traiter de la société que de traiter de l'homme en particulier. Que d'autre part, la plupart des malheurs qui tombent sur l'humanité viennent de son état d'isolement. Et que le jour où l'homme vivra en groupe, en s'aidant par des services rendus, par une division du travail, par une technicité plus grande de l'organisation sociale, eh bien, on trouvera facilement l'optimisme. Au fond, l'optimisme est lié à la vie de société.
Je pensais à deux noms qui s'associaient dans ma pensée d'une manière peut-être un peu curieuse, Leibniz au début du XVIIIe siècle et Adam Smith vers la fin.
Georges Gusdorf.
Il est très curieux de constater à quel point Leibniz est le prophète de cette communauté humaine rassemblée, de cette communauté qui sera la communauté des savants et qui sera la communauté des croyants.
Et qui deviendra la communauté des citoyens avec Condorcet.
C'est ça. Il y a donc là une sorte de vision prophétique chez Leibniz de cette unité humaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une vision prophétique. Il faut dire que Leibniz a consacré sa vie, parce que ça a été l'œuvre de sa vie, Leibniz a consacré sa vie à promouvoir l'unité humaine. Et Leibniz le fait exactement en définissant une sorte de division du travail intellectuel au début de ce siècle qui verra Adam Smith, à la fin, définir la division du travail industriel.
Oui, maintenant on pourrait dire que ce n'est pas une idée très nouvelle, en ce sens que toute la réforme a été fondée sur cette idée de spécialisation, même dans les travaux intellectuels.
Non, mais ce qui est important, c'est ce passage de la division du travail sur le plan intellectuel à la division du travail sur le plan technique, qui fait songer justement à cette unité des sciences humaines et des sciences naturelles ou mathématiques, qui est quelque chose de nouveau et qui intervient dans l'élaboration de ce concept de civilisation.
Le thème qui vient d'être développé, qui est très, très fécond sur le plan de la recherche intellectuelle au XVIIIe siècle, à savoir celui du cosmopolitisme des intellectuels, du cosmopolitisme d'une société des esprits, des mathématiciens, physiciens, etc.
Louis Althusser.
Ce cosmopolitisme sur le plan politique est aussi un des thèmes de la philosophie des Lumières. C'est-à-dire que l'histoire du genre humain, pour les idéologues des Lumières, doit culminer, au fond, dans une espèce de communion humaine, de société humaine universelle, dans laquelle la raison universelle, commune à tous les hommes, règnera sur tous les hommes. Or, c'est justement un des thèmes contre lesquels Rousseau s'élève le plus violemment. Rousseau est anti-cosmopolite. Il n'est pas possible de franchir cette étape de l'existence des nations, de passer par-dessus les nations, et que l'histoire humaine se fait dans le cadre de certaines réalités existantes dont il n'est pas possible de faire abstraction. Et c'est pourquoi il s'oppose à l'idéologie du cosmopolitisme comme à une idéologie proprement utopique.
Seulement, il y a quand même une idée qu'il l'identifie un peu aux philosophes, et idée sur laquelle il faut également insister, c'est la notion de système. Tous ces hommes ont eu le sentiment qu'on avait découvert suffisamment de choses, qu'on avait suffisamment rassemblé de documents, et d'acquis scientifiques, il fallait organiser tout cela pour aboutir à un état idéal de la civilisation. Au fond, la philosophie souffrait d'un manque d'audience, elle souffrait d'un manque d'organisation, et c'est avant tout ce qu'ils ont cherché. Ils l'ont cherché sur le plan cosmopolite, chez des esprits comme Condorcet ou comme Diderot. Rousseau, au contraire, l'a cherché sur un plan beaucoup plus étroit, en s'efforçant de situer l'homme dans un milieu, dans un environnement qui soit à sa mesure, à son échelle.
Georges Gusdorf.
Vous vous rappelez le mot magnifique de Hegel qui dit de la Révolution française, ce fut une splendide aurore. L'aurore de la raison, l'aurore de la raison humaine devenant maîtresse de ses propres destinées. C'est pourquoi, à travers l'Europe entière, à travers l'Europe du XVIIIe siècle, que ce soit à Königsberg chez le professeur Kant, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Amérique, partout, la Révolution française est saluée comme un événement libérateur.
Michel Foucault.
C'est-à-dire que je crois que les révolutionnaires de la période 80-93 ont réfléchi la Révolution dans les termes de la philosophie du XVIIIe siècle. Et ils ont reconnu la philosophie du XVIIIe siècle dans la Révolution qu'ils étaient en train de faire. C'est un fait. Et puis alors est arrivée la nouvelle vague, c'est-à-dire les idéologues à l'époque de Thermidor et du Directoire, qui eux ont réutilisé cette même philosophie du XVIIIe siècle à quelques modifications près pour critiquer précisément la terreur. Et ils ont fait la réduction de l'action révolutionnaire précédente par la même philosophie qui justifiait l'action révolutionnaire de la période de la Convention.
Retenons de tout cela l'idée que cette philosophie qui a servi avant la Révolution, qui a été reprise ensuite par les idéologues survivants, est avant tout une philosophie qui veut mettre en place des évidences, qui a le goût des systèmes, et également une philosophie qui a souci d'application pratique. Il est évident qu'il y a une grande opposition qu'il faut faire entre tout le mouvement de l'Aufklärung, selon lequel la société se développe selon une finalité générale de la nature et évolue comme elle, lentement et en dehors de la volonté humaine, et puis la volonté révolutionnaire. Et on verra ensuite toute l'œuvre de Kant s'élever précisément contre l'Aufklärung, qui ne tenait pas compte de cette rupture que la révolution avait pu introduire dans le déroulement des idées. Mais gardons de tout cela l'idée que la notion de civilisation récapitule au XVIIIe siècle aussi bien l'acquis scientifique, la volonté d'unir les hommes, la volonté de développer entre les hommes un instinct social et de faire d'eux des citoyens.
Pierre Cipriot présentait en 1961 un débat sur l'idée de civilisation au XVIIIe siècle, avec la participation de Louis Althusser, Jean Cazeneuve, Michel Foucault et Georges Gusdorf. Les vendredis de la philosophie, archives, l'apparition de l'idée de civilisation. Tout homme aura peut-être éprouvé cette sorte de chagrin, sinon la terreur, de voir comme le monde et son histoire semblent pris dans un inéluctable mouvement qui s'amplifie toujours plus et qui ne paraît devoir modifier pour des fins toujours plus grossières que les manifestations les plus visibles du monde. Ce monde visible est ce qu'il est et notre action sur lui ne pourra faire qu'il soit absolument autre. On songe donc, avec nostalgie, à un univers où l'homme, au lieu d'agir aussi furieusement sur l'apparence visible, se serait employé à s'en défaire, non seulement à refuser toute action sur elle, mais à se dénuder assez pour découvrir ce lieu secret en nous-mêmes, à partir de quoi eût été possible une aventure humaine toute différente. Mais après tout, c'est peut-être à cette inhumaine condition, à cet inéluctable agencement, que nous devons la nostalgie d'une civilisation qui tâcherait de s'aventurer ailleurs que dans le mesurable. Voilà qui n'est pas d'un philosophe, mais du poète Jean Genet, en introduction de son atelier d'Alberto Giacometti. Il nous parle sans phare, comme un d'Holbach, de tout homme et d'inéluctable agencement, de ce qui fait système, là où les philosophes croyaient devoir jouer d'une double doctrine, selon Rousseau par malhonnêteté, selon qu'il s'agisse de faire face à l'opinion minoritaire et pensante, ou bien à l'opinion majoritaire et aveugle, et bien sûr, selon les degrés de répression. Les fondateurs de la sociologie moderne représentent pour Raymond Aron une zone, une ère de civilisation prise quant à elle dans la syntaxe de la guerre froide. Nous disions strabisme, pléonasme, pour situer tout à l'heure notre propos, il faudrait penser chiasme entre histoire et relations de pouvoir. Philippe Artière et Mathieu Pott-Bonneville, dans leur D'après Foucault, geste, lutte, programme, paru en 2007, approuvent le risque, d'après Foucault, de montrer ce qui fait structure de ce qui s'entrecroise intimement dans la réalité et doit se trouver, cependant, dans sa description. Pas de rapport de pouvoir qui ne se donne en effet nécessairement dans l'histoire et inversement. Mais une critique pratique, insiste Foucault, dans la forme du franchissement possible, une critique pour dégager de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes, la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons. Il est là, l'aujourd'hui, que Michel Foucault nous adressera pour conclure, aujourd'hui, dont nous voyons que toute la substance était déjà dans son introduction à l'anthropologie du point de vue pragmatique d'Emmanuel Kant, sa thèse complémentaire publiée depuis seulement janvier 2008, en première édition intégrale chez Vrin, et prémisse de son livre sur les signes de 1966, « Les mots et les choses ». Dévoilement de ce que l'anthropologie de Kant, comme connaissance de l'homme et du monde, dit d'elle-même qu'elle est à la fois systématique et populaire, et que c'est dans l'approfondissement de ces deux mots qu'on peut déchiffrer le sens qui lui appartient en propre. En répétant la critique de la raison, au niveau populaire du conseil, du récit et de l'exemple, acheminer secrètement la pensée kantienne vers une réflexion fondatrice. La trajectoire de la question « Was ist der Mensch ?» dans le champ de la philosophie s'achève dans la réponse qui la récuse et la désarme, « Der Übermensch ». Un aujourd'hui nietzschéen qui interroge « N'est-il pas possible de concevoir une critique de la finitude ?» qui serait libératrice aussi bien par rapport à l'homme que par rapport à l'infini, et qui montrerait que la finitude n'est pas terme, mais cette courbure et ce nœud du temps où la fin est commencement. Raymond Aron, puis Michel Foucault.
Dans le livre que je viens de publier et que j'ai appelé « Les étapes de la pensée sociologique », peut-être en me souvenant du titre d'un livre de Léon Brunswick, j'ai fait figurer Montesquieu non comme un précurseur de la sociologie, mais comme un sociologue. Et au moment de commencer le dialogue avec vous, je me souviens que dans votre livre « Les mots et les choses », que j'ai lu plusieurs fois, c'est-à-dire avec une extrême attention, vous faites figurer le XVIIIe siècle dans la période pré-moderne, celle qui n'a pas encore découvert les sciences sociales, l'épistémé typique des sciences sociales. Alors je voudrais vous demander comment vous situez Montesquieu dans votre perspective historique, sinon de la sociologie, du moins des sciences sociales en général.
Vous pensez que je serais très embêté, en effet, si Montesquieu pouvait être considéré comme un sociologue à la manière des sociologues du XIXe siècle. En réalité, ce qui me paraît caractériser la pensée du XIXe siècle, ce serait plutôt, si vous voulez, l'existence des sciences humaines plutôt que l'existence des sciences sociales. La sociologie telle qu'elle est apparue au XIXe siècle, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sociologie qui est toute centrée sur le problème de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'essence humaine, quel est le rapport de l'individu et de la société, etc. Alors que Montesquieu fait une lecture du fait social, du régime politique, des corrélations entre les structures constitutionnelles ou institutionnelles des États, et puis les groupes sociaux, les classes, les catégories qui figurent, etc. Tout ça, c'est une lecture du fait social qui était parfaitement possible au XVIIIe siècle, qu'il était probablement déjà au XVIIe, et qui est peut-être incommensurable avec ce qui s'est passé au XIXe.
Oui, dans mon système d'interprétation ou de lecture, que je considère comme un entre d'autres, et d'ailleurs, je crois que vous-même, vous admettez qu'on peut lire de diverses façons l'histoire de la pensée. Montesquieu est intermédiaire entre les philosophes politiques traditionnels et la pensée sociologique. J'insiste sur ceci que dans les premiers livres, disons gros dans les 9 ou 10 premiers livres, Montesquieu est beaucoup plus un philosophe politique traditionnel avec une orientation sociologique qu'un sociologue proprement dit. Donc, même dans ma propre interprétation, Montesquieu appartient à une période charnière ou intermédiaire entre la philosophie politique de la tradition occidentale et les sociologues. Cela dit, dans ce que vous m'avez répondu, vous avez introduit déjà une bonne partie de ce que l'on appelle couramment la pensée sociale ou la pensée sociologique. Car l'interprétation des corrélations entre les différents secteurs de la société, c'est en gros la macro-sociologie d'aujourd'hui. Donc Montesquieu n'est pas pour vous un homme des sciences humaines ou des sciences sociales, parce que vous définissez celle-ci par une intention proprement philosophique. Du coup, j'ai envie de vous demander, si l'on considère Saint-Simon comme un des fondateurs de la sociologie, est-ce que Saint-Simon, à son tour, n'échappe pas à votre propre définition des sciences humaines ou des sciences sociales? C'est-à-dire, l'intérêt pour l'essence de l'homme, est-ce que ce n'est pas une intention philosophique que vous prêtez aux sciences humaines et qui n'est pas toujours évidente chez tous ceux qui ont pratiqué les sciences humaines au XIXe siècle? Est-ce que la sociologie ou les sciences sociales en tant que substitut de la philosophie, ce n'est pas votre lecture de ces sciences qui est visible dans la tradition hegeliano-marxiste, mais qui est beaucoup moins visible dans toute une partie de ce que l'on appelle aujourd'hui sciences humaines? Par exemple, si les surveys ou les enquêtes sociales du XIXe siècle sont une des grandes origines des sciences humaines d'aujourd'hui, est-ce qu'on y voit cette intention philosophique ou métaphysique?
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, quand j'ai parlé dans mon livre des sciences humaines, je mettais, si vous voulez, l'accent sur humaines, plus encore que sur science. Et je crois en effet qu'il y a eu une réflexion sur la société qui date, ma foi, de fort longues années, et bien antérieure au XIXe siècle. Ce qui caractérise le XIXe siècle, c'est, si vous voulez, l'inflexion humaine qui vient modifier au niveau de la réflexion ses conceptions, ses analyses, ses lectures, ses enquêtes sur la société. Et je dirais, si vous voulez, en gros ceci, c'est que, en effet, la perception du social en tant que social est certainement apparue tôt, peut-être au XVIIe siècle, au moment des grandes enquêtes quantitatives qui ont été faites en Angleterre et qualitatives qui ont été faites en Allemagne, enquêtes qui ont d'ailleurs eu leur écho en France avec Colbert. Bon, toute cette lecture, cette perception du social comme social, on en retrouve probablement la théorie chez Montesquieu, et ma foi, jusque chez les idéologues, il y en aurait certainement des traces. Au XIXe siècle, je crois que la restructuration du savoir concernant l'homme a modifié probablement le caractère de cette perception du fait social. Et je vous dirais que ce à quoi nous assistons maintenant, dans une œuvre comme la vôtre, ou dans une œuvre d'ailleurs fort différente comme celle de Lévi-Strauss, c'est la disparition de cette espèce de configuration anthropologique qui a modifié ou enveloppé la perception du social au XIXe siècle. Et on en revient à une lecture du social affranchie de cette structure anthropologique. Et je ne m'étonne pas que vous trouviez en Montesquieu, non pas du tout justement le précurseur d'une sociologie, disons de type anthropologique, mais un sociologue au sens où vous l'êtes, au sens où vous l'entendez.
Oui. Est-ce que je peux vous rappeler, parce que je suis sûr que vous la connaissez, ce que dit la Grande Encyclopédie au chapitre social ? Et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dit à propos du mot social, mot nouveau. Donc au XVIIIe siècle, la notion de social est considérée comme une notion nouvelle. Et je pense que c'est très intéressant pour confirmer mon interprétation de Montesquieu. Montesquieu a raison de se considérer comme un précurseur ou comme un créateur d'une science nouvelle, en ce sens que s'il avait dit sociologie explicitement à propos de l'esprit des lois, il aurait eu raison, car il y a une certaine conceptualisation du social. Et l'encyclopédie Diderot et d'Alembert dit « mot nouveau » pour désigner les qualités qui font un homme de société. Dans ce sens, on peut dire qu'il y a une conceptualisation des relations interpersonnelles ou du social différencié, si l'on peut dire, de l'économie, du politique et ainsi de suite. Et ce qui est l'originalité de la conceptualisation du social, c'est de voir ou bien un social sous-jacent à toute activité politique ou économique, ou bien de voir un social englobant les différents secteurs de l'activité humaine ou englobant les différentes activités spécifiques que nous pouvons appeler religieuses, juridiques, politiques, etc. Cela dit, quand vous dites anthropologique, vous entendez anthropologique au sens philosophique d'une conception de l'homme. Et alors, la question que je voudrais vous reposer, vous dites que la dimension anthropologique disparaît de la sociologie de Lévi-Strauss ou de la mienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi bien l'inverse ? Car Lévi-Strauss présente sa sociologie comme une espèce de philosophie de la raison impure, ou comme une théorie de la façon de penser immémoriale et permanente au-dessus ou au-delà de la façon de penser scientifique. Et simultanément, quand je pense à moi-même, j'ai le sentiment de chercher dans la société les différentes figures du destin humain, mais sans avoir la prétention de trouver la réponse. Or, ce qui me paraît spécifique de certaines pensées du XIXe siècle, c'est de croire qu'on trouvait la réponse dans la sociologie. Moi, je crois que l'interrogation anthropologique survit dans la sociologie, même empirique, ou dans les sciences sociales, même empiriques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous penseriez de ma réponse, accord ou désaccord ?
Eh bien, lorsque vous dites que la sociologie, enfin votre sociologie ou celle de Lévi-Strauss, sont anthropologiques, est-ce que vraiment vous donnez au mot anthropologique sa dimension la plus évidente et après tout la plus restreinte ? J'ai l'impression que par anthropologique, là, vous entendez, disons, philosophique. En gros, n'est-ce pas, dans une pensée comme la vôtre ou celle de Lévi-Strauss, l'homme est bien référé, ou les faits humains sont bien référés à des structures, des conditionnements, des configurations qui sont d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre purement structural ou logique chez Lévi-Strauss. Or, ces structures ne peuvent pas être référées à quelque chose comme l'existence humaine définie par l'expérience, la conscience de soi, ou l'inconscient, ou l'originaire. Et je crois que tout de même, votre grand débat d'autrefois avec l'existentialisme se situe bien à peu près dans cette dimension. C'est-à-dire que pour vous, l'existence humaine est à référer à des structures et à des conditions au lieu d'être référé à sa propre activité de fondement. Vous n'êtes pas fichtéen, si vous voulez.
Je ne suis certainement pas fichtéen, et je pense que, et vous pensez comme moi, que toute existence humaine est socialisée. Et d'une certaine façon, ce qui fait à la fois peut-être la grandeur et la tragédie de la destinée humaine, c'est que nous ne pouvons pas concevoir une humanité qui ne soit celle d'une certaine société. Et une des raisons peut-être pour lesquelles les guerres sont difficiles à éliminer, c'est que l'homme ne peut pas ne pas donner une valeur absolue à ce qu'il est. Ce qu'il est au plus profond de lui-même est fait par la société à laquelle il appartient, de telle sorte que toute anthropologie est à nos yeux en même temps une sociologie. Mais ce qui signifie aussi qu'aucune sociologie n'est finale. De telle sorte que vous avez raison de dire que si l'anthropologie se définit par quelque chose d'originaire, par une destination donnée dès le point de départ dans la conscience, nous sommes anti-anthropologues. Mais si nous essayons à chercher, au-delà de la diversité des sociétés, ce qu'est la destination humaine, enfin, si, comme je l'ai écrit il y a 40 ans, nous cherchons la destination humaine au-delà de la destinée, est-ce que les sciences sociales ne nous ramènent pas à une interrogation philosophique sans cependant nous donner la réponse? De telle sorte que quand j'essaye de défendre à la fois une sociologie empirique et une sociologie philosophique, je dis la donnée, c'est que notre conscience est inévitablement socialisée. Mais que cette socialisation, quand nous en prenons conscience, nous oblige à nous interroger sur quelque chose qui dépasserait chaque socialisation particulière. Et de cette manière, je crois qu'on retrouve la philosophie, et même une certaine philosophie existentielle, non pas en deçà de la sociologie, mais au-delà. Ce en quoi j'étais non-existentialiste, c'est, et en quoi je suis contre, par exemple, la critique de la raison dialectique, c'est cette extraordinaire prétention de faire un fondement de la sociologie à partir de la conscience nue, cependant que je crois que toute sociologie poussée jusqu'au bout repose des questions philosophiques. Ce qui m'amène, pour ainsi dire, à vous poser une autre question. Vous dites à la fin de votre livre, c'est que la mort de Dieu entraîne la mort de l'homme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes aujourd'hui, par les sciences humaines, plus conscients du problème de l'homme que nous ne l'avons jamais été? Et êtes-vous sûr de voir déjà l'épistémé où il n'y aurait plus de sciences humaines? Est-ce que vous n'êtes pas Nietzschéen à ce moment-là? Est-ce que vous ne sortez pas de votre propre méthode de l'analyse de l'épistémé des différentes époques?
Si vous voulez, je dirais que la configuration épistémologique, dont la mort de Dieu annonce probablement la fin. Cette configuration, on peut la définir d'un mot, c'est la revendication pour l'homme du droit à être sujet et objet de la philosophie et du savoir qui porte sur lui-même homme. Ce que vous avez fait, je crois, dans votre œuvre sociologique, ce qui se passe actuellement, c'est la dissociation entre, si vous voulez, l'homme comme objet de la philosophie et puis l'homme comme sujet de sa propre expérience. J'ai dit tout à l'heure objet de la philosophie, je voulais dire objet du savoir, objet des sciences humaines, etc. Il est évident que l'homme comme sujet de sa propre expérience appartient à une société, à une culture, appartient à un champ qu'on doit pouvoir structurer. J'emploie structurer au sens faible, c'est-à-dire au sens large du mot, donc à un champ qu'on peut structurer. Ceci dit, l'homme comme objet de la réflexion, comme objet du savoir, comme objet de l'analyse, c'est un champ qui est évidemment entièrement ouvert pour nous. Et je crois que votre œuvre, précisément, l'a ouvert. Mais l'a ouvert par une dissociation entre l'homme-sujet et l'homme-objet, si vous voulez, un postulat anti-fichtéen qui me paraît caractériser la pensée contemporaine.
Oui, vous montrez à quel point les épistémés des différentes périodes sont différentes. Traduisons épistémé en langage ordinaire et disons qu'il y a une structure de pensée propre à chaque époque et d'une certaine manière vous suggérez que l'on ne peut pas penser simultanément dans deux époques. S'il s'agissait par exemple de l'histoire de la science économique, je serais tenté de vous suggérer que l'épistémé de chaque époque ou la façon de penser de chaque époque comporte tout de même à titre de germe les manières de penser des autres époques, c'est-à-dire que les manières de penser sont moins radicalement différentes que vous ne le faites. Et j'aimerais, si j'avais le temps, discuter avec vous de la relation entre l'histoire de la théorie économique de Schumpeter et votre propre vision du développement de la science historica. Ces deux interprétations sont aux deux pôles opposés. Schumpeter montre le développement continu d'une théorie économique et vous montrez la séparation radicale entre les façons de penser économique, ce qui signifie qu'il y a deux lectures possibles du passé de la science économique et... Comme dans ma jeunesse, j'ai montré la pluralité légitime des interprétations, je ne peux pas me contredire moi-même. Mais je voudrais vous suggérer dans quelle structure de pensée ou dans quelle épistémé êtes-vous. Et si vous êtes à la fois dans l'épistémé déjà passée et dans celle qui s'annonce, vous démontrez par votre propre exemple qu'on peut être à la fois dans deux façons de penser. C'est-à-dire où vous situez-vous, c'est-à-dire quel est le point à partir duquel vous montrez la séparation irréductible des façons de penser, tout en niant cette irréductibilité par votre être même.
Écoutez, à toutes ces questions, je vais tâcher de répondre par deux ou trois phrases, enfin, disons deux ou trois rubriques. Premièrement, la discontinuité. La discontinuité, bien sûr, c'est un très grave problème, mais vous savez bien que c'est un problème qui se pose aux historiens. Le problème de la périodisation dans l'histoire économique, dans l'histoire sociale se pose. Il n'y a pas de raison que les historiens des idées soient en retard du point de vue méthodologique sur les historiens de l'économie ou des sociétés. Dans le domaine des idées, il y a des problèmes de périodisation qui se posent. Et cette périodisation est relative au niveau auquel on se place et à l'objet qu'on choisit. Deuxièmement, je suis peut-être discontinuiste dans le temps, mais disons que j'ai tout de même été... Enfin, j'ai la vanité, c'est ma seule vanité à propos de ce livre, j'ai la vanité d'avoir établi, je crois pour la première fois, la continuité synchronique, les rapports de simultanéité qu'il y avait entre des champs épistémologiques aussi différents que l'étude du langage, l'étude de l'économie et l'étude de la biologie. Donc j'ai acheté une discontinuité au prix d'une continuité ou inversement, comme vous voulez. Mais ceci, c'est tout le problème de la lecture historique, problème qu'il va bien falloir remettre à l'ordre du jour, maintenant que peut-être les débats sur la structure sont un peu épuisés. C'est l'histoire qui nous pose actuellement des problèmes, et pas la structure. Maintenant, vous me demandez où je suis, je vous répondrai tout simplement aujourd'hui. Et peut-être est-ce que le rôle du philosophe actuellement, c'est d'être non pas le théoricien de la totalité, mais le diagnosticien, si vous me permettez ce mot, le diagnosticien d'aujourd'hui. La philosophie consiste à diagnostiquer et il est évident que tous les découpages, toutes les périodisations, etc., s'organisent autour de cette coupure, de cette ouverture dans laquelle nous sommes et qui est aujourd'hui. Il me semble d'ailleurs qu'en disant ça, je fais écho au moins au souvenir que j'ai de la lecture de l'introduction à la philosophie de l'histoire.
En vous écoutant, j'avais envie précisément d'évoquer mon passé, car... Vous me répondez avec beaucoup de gentillesse que l'aujourd'hui se définit par l'ouverture sur l'avenir, ce que j'avais essayé de dire dans le passé. Mais je ne suis pas absolument sûr que notre accord soit aussi total que la politesse l'implique actuellement, car malgré tout, vous impliquez une discontinuité et qui est dans une certaine mesure contradictoire avec ce que j'entendais par l'ouverture sur l'avenir, mais ça nous ramènerait à votre problème de la discontinuité que vous avez tourné gentiment en parlant de la continuité dans le moment. Mais la continuité dans le moment, c'est un peu la structure ou la totalité, ce qui serait une manière de relancer notre dialogue, mais je pense que c'est le moment de l'arrêter.
Tiré de la série Les idées et l'histoire, c'était une rencontre entre Raymond Aron et Michel Foucault, proposée par Pierre Cipriot la première fois le 8 mai 1967. Ce dialogue était précédé d'un débat sur le thème bilan de l'idée de civilisation au XVIIIe siècle, animé le 11 novembre 1961 par Pierre Cipriot, avec les interventions de Louis Althusser, Jean Cazeneuve, Michel Foucault et Georges Gusdorf. C'était Les Vendredis de la philosophie, archives, l'apparition de l'idée de civilisation. Mixage Jean-Michel Coqui, chargé de réalisation Bruno Sourcy, une émission proposée et présentée par Marc-Hubert Florieux. Dans un instant, question d'époque par Caroline Brouet.